Esprit de réforme. Le magazine de la rédaction du journal Réforme.
Bonjour à tous. Vous souvenez-vous de cette chanson de Jacques Brel, La Statue, dans laquelle l'auteur-compositeur-interprète disait « Ah, si je le tenais, l'enfant de Marie qui a écrit sous ma statue, il est mort comme un héros, il est mort comme on ne meurt plus. » Qu'est-ce qu'un héros? Eh bien là, pour le coup, au contraire du personnage de Jacques Brel qui, dans la vie courante, s'était comporté d'une manière plus ou moins convenable, nous allons vraiment vous parler d'un héros. Mais ce héros national, puisqu'il s'agit de Jean Moulin, qui était-il vraiment? Eh bien, vous allez voir, et cela n'en est que plus émouvant, ce me semble, vous allez voir, dis-je, ce qui à la radio, admettez-le, est un exploit, que Jean Moulin, avant d'être un héros, a été un être humain, avec ses forces, ses faiblesses et ses failles. Bénédicte Vergès-Seignon, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir au micro de Fréquence Protestante pour nous parler de Jean Moulin à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre, intitulé tout simplement « Jean Moulin », paru dans la collection des grandes biographies chez Flammarion. Alors, nous vous connaissions comme historienne d'un certain nombre, pardonnez-moi, chers auditeurs, l'expression, mais d'un certain nombre de salopards, et là, vous venez avec un beau personnage. Comment vous est-il venu à l'esprit de changer de crèmerie?
Alors en fait, je reviens à mes premiers amours. J'avais dérivé, mais j'ai commencé ma carrière professionnelle quand j'étais une petite étudiante aux côtés de Daniel Cordier pour travailler à sa monumentale biographie de Jean Moulin. Et à cette époque-là, je faisais les notes en bas de page.
Ah, voilà. Très bien.
Et puis, bon, bah, les années ont passé, presque 30.
Les notes en bas de page. On ne dira jamais assez aux auditeurs et aux lecteurs à quel point, pour les chercheurs, les savants ou les curieux, les notes en bas de page sont utiles.
Hein? Oui, en même temps, je ne peux pas dire que c'était très amusant à faire. Hein. J'exagère,
Frédéric.
On va dire que c'est très, très utile. C'est
et même très ingrat.
Indispensable. Mais c'est assez ingrat.
Bon, d'accord. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Donc, vous vous occupiez des notes en bas de page de Jean Moulin, l'inconnu du Panthéon, par exemple.
Oui, et en fait, et puis après de la République des catacombes, et en fait, j'avais pendant ces 10 années acquis une vision très administrative et assez austère de Jean Moulin, qui me semblait avoir passé l'essentiel de sa vie à écrire des rapports ou des comptes rendus.
Effet de source.
Exactement, vraiment la déformation de l'archive, pour le coup. Et en même temps, comme c'était il y a assez longtemps, je côtoyais des personnes, Daniel Cordier et d'autres, qui avaient connu Jean Moulin de son vivant et qui me disait il était tellement gentil, il était tellement charmant, il était tellement drôle et moi je ne le voyais pas. Et donc il est venu un moment où j'ai essayé de retrouver moi-même par curiosité, je dirais, la personne derrière le haut fonctionnaire, le fédérateur de la résistance et surtout l'icône. Voilà.
Oui.
En l'occurrence, Jean Moulin, c'est quelqu'un qu'on admire à juste titre et qu'on respecte pour son engagement et pour son courage. Mais c'est aussi quelqu'un qui nous touche parce que ce n'est pas du tout quelqu'un qui a vécu en se disant « je suis un héros, il faut que je sois exemplaire
voilà.
Et je finirai en héros
». Non, c'est ça qui est émouvant chez lui. C'est que, à la différence de, bah, par exemple, de Brossolette, hein, je le dis franchement, au risque de choquer les oreilles de nos auditeurs, qui, malgré ses hautes capacités intellectuelles, sa haute culture et un vrai courage physique et politique, était aussi investi d'une haute opinion de lui-même. Jean Moulin, lui, vraiment, c'est un type qui suit des chemins de traverse.
Oui, et en tout cas, c'est aussi un homme sensible. C'est un homme d'une grande sensibilité, chose dont on ne se rend pas forcément
oui.
compte quand on évoque, je dirais, un préfet.
Oui.
Et parce qu'il était aussi un artiste. Je pense que certains de vos auditeurs le savent, d'autres non, mais il était un dessinateur presque professionnel. Il a fait beaucoup de dessins de presse, en particulier dans les années 1920. Et puis après, il a changé son trait et son orientation.
Voilà, afin de ne pas égarer nos auditeurs, si vous vouliez bien, j'aimerais vous demander que nous commencions par sa naissance et le milieu dans lequel il est né, s'il vous plaît.
Mais oui, il est né à Béziers.
Ah, déjà, Béziers, tout un univers. Hein.
En 1899, bon, c'est l'époque, c'est une petite ville de province, c'est la capitale du vin,
voilà.
Néanmoins. Et puis, son père est professeur d'histoire dans un collège. Et c'est surtout un républicain de la Troisième République, tel qu'on peut se le représenter. Donc, il est... laïque, franc-maçon. Il est le créateur de la Ligue locale des droits de l'homme.
Il cumule.
Voilà, c'est un radical socialiste. C'est vraiment un homme engagé, un homme de conviction et qui transmet cet atavisme républicain, pour reprendre une expression de Jean Moulin lui-même, à son fils, qui aime se définir, une fois devenu adulte, comme l'arrière-petit-fils d'un soldat de la Révolution et le petit-fils d'un proscrit du Second Empire. Il y a vraiment là une identité républicaine vraiment traditionnelle.
Voilà.
Et c'est aussi pour ça que j'aime bien que Jean Moulin soit au Panthéon, parce que le programme iconographique du Panthéon, c'est celui de cette République de son enfance et de sa jeunesse.
Mais oui, c'est un livre émouvant parce que... Alors, vous racontez énormément de choses à propos de Jean Moulin, mais ça n'est pas une biographie étouffante. Et le lecteur a la place de rêver, car vous passez d'un chapitre à l'autre, d'une facette à l'autre du personnage. Il y a des... J'allais dire des manques. Non, ça pourrait passer comme une critique. Pas du tout. Il y a des espaces.
Il y a des espaces. J'ai choisi 25 dates dans sa vie.
Voilà.
Depuis son enfance jusqu'à sa mort et même au-delà. Je pense qu'on en parlera,
oui, bien sûr.
Et qui relève parfois de sa vie publique, parfois de son intimité, qui ont pris place dans notre histoire nationale ou qui ne concernent au fond que sa vie, des journées qui lui ont paru à lui très importantes, à nous moins et réciproquement, parce que j'essayais de rendre compte effectivement de toutes les facettes de sa vie et sans accabler les lecteurs avec les détails de sa carrière. Je pense qu'il suffit de se faire une impression en voyant différentes étapes de sa carrière, par exemple.
Alors, dessinateur, vous l'avez dit tout à l'heure, dessinateur à ce point qu'il devient dessinateur de presse. Et on sent qu'il aimerait bien faire carrière dans ce domaine.
Oui, oui.
Et ça ne marche pas, comme on dit, trivialement.
Alors, en fait, plus simplement, à l'adolescence, il publie ses premiers dessins dans des journaux nationaux.
Oui.
Mais papa dit, passe ton bac d'abord. Parce que, voilà, la carrière d'artiste, eh bien,
voilà.
Non seulement ça ne nourrit pas son homme, mais ça ne lui permet pas d'acquérir une indépendance matérielle qui lui garantisse une indépendance politique. Et c'est très important. Et donc, son père l'oriente, grâce à ses relations, puisqu'il est conseiller général de l'Hérault, dans la carrière préfectorale. Mais, Jean Moulin s'est sans doute d'abord résigné, mais il s'est pris au jeu. Il a réussi dans son métier, il a été ambitieux. Hein, vous le savez, peut-être il a été tour à tour le plus jeune sous-préfet et le plus jeune préfet
de
France.
Oui.
Pas seulement grâce à son entregent, mais aussi grâce à ses compétences professionnelles. Mais en même temps, voilà, le dessin reste sa danseuse.
C'est ça,
voilà. Et sous le pseudonyme de Romanin, il publie des dessins humoristiques, éventuellement politique, mais pas toujours, dans des grands journaux nationaux, comme Riquera, qui est un hebdomadaire satirique, ou Gringoire, qui est un grand hebdomadaire littéraire. C'est un peu comme si de nos jours, il publiait dans le Canard Enchaîné, voilà, ou le Point, voilà. Voilà,
Gringoire n'étant pas encore devenu l'ignoble feuille de chou,
voilà,
antisémite et collaborationniste.
Voilà, c'est pas encore le journal de Philippe Henriot ou d'Henri Béraud. Absolument. On se trouve tout à fait à la fin des années 20, au début des années 30, parce que Jean Moulin a abandonné le dessin de presse au début des années 30 pour se consacrer au contact d'artistes comme Max Jacob, à un travail beaucoup plus sensible, en travaillant cette fois les eaux fortes et la gravure sur des sujets très graves. Et ces dessins sont assez saisissants parce que certains d'entre eux, je dirais, hélas, annoncent les horreurs de la guerre à venir.
Du fait aussi, bien sûr, de la Première Guerre mondiale, sans doute.
Oui, alors...
À laquelle il a participé sans combattre.
Voilà.
Originalité de son destin.
Il a été mobilisé en avril 1918. Il est arrivé dans les Vosges, mais il n'est jamais monté au front. Il n'a jamais triché à cet égard. Entre les deux guerres, jamais il ne s'est posé à l'ancien combattant authentique. Mais c'est vrai qu'il en garde une forme de regret, qu'il va vouloir désespérément compenser en 1939, alors qu'à ce moment-là, il n'est plus mobilisable, en essayant en vain d'être mobilisé. Et sans doute, est-ce que ça se retrouve dans son engagement volontaire de 1941 ?
Dilettante est un adjectif qui vient parfois à l'esprit des gens lorsqu'ils parlent du Jean Moulin de l'entre-deux-guerres. Parce que c'est un homme qui va, vous venez de le dire, Bénédicte Vergès-Chaignon, d'un domaine à l'autre, sans toujours se fixer. Dilettante avec les dames aussi.
Oui, à cette époque-là. Bon, ce sont les années folles, hein, les années 20, et c'est celle de sa jeunesse. Et voilà, ce sont ces années folles à lui aussi. Après des fiançailles qui ont tourné court pour des raisons financières, et puis un mariage aussi bref que calamiteux, eh bien, il est dans les deux décennies presque qui suivent, l'homme des aventures d'un soir et des bonnes fortunes, par exemple au sport d'hiver, hein, dont il est un praticien en même temps que le dessinateur. Et puis, c'est finalement autour de 40 ans qu'il va nouer des liaisons plus durables, parfois passionnées, parfois non, avec des femmes qui ne désirent pas plus que lui s'engager, en un sens.
Ce qui est tout à fait rare à l'époque, et ce qui sans doute a nourri, dites-vous au passage, la rumeur où, selon laquelle il aurait été homosexuel. Disons-le franchement, un écrivain de l'Académie française, qui est heureusement toujours vivant, dit « mais Jean Moulin, il est homosexuel, bien sûr, alors, c'est connu ».
Bon, avant... Voilà, alors écoutez, je ne demanderais pas mieux, si je puis m'exprimer ainsi. Non, mais je veux dire, ça m'est égal. J'aurais des éléments
à... Vous le diriez.
Voilà, absolument.
Mais Cordier,
tout à fait,
le dirait, puisque Daniel Cordier ne fait pas mystère de son homosexualité.
Oui, oui. Et je pense que là, c'était un peu un effet de contagion à cause, bien entendu, de Daniel Cordier et d'autres personnes avec lesquelles Jean Moulin a été très ami, Max Jacob ou Pascal Copeau.
Voilà, alors voilà. Ça, ce serait cocasse. D'un côté, il y a ceux qui disent quand on a des amis homosexuels, alors on est homosexuel, et les autres disent il faut pas avoir d'amis homosexuels, alors quelle serait la bonne relation?
Tout à fait.
Je disais cela, non pas par curiosité mal placée, mais parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui ont entendu parler de ça.
Je vais vous dire, je pense que c'est très symptomatique du fait que nous questionnons toujours notre passé avec nos questions du présent.
C'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre
et,
à ce sujet.
Et donc, ça ne me paraît pas anormal que, après tout, ces questions autour du genre ou de l'orientation sexuelle apparaissent, puisqu'elles sont à l'ordre du jour maintenant.
Il existe donc plusieurs facettes chez cet homme, vraiment très, très curieux de tout, ouvert à son époque, aux artistes de son temps, car s'il se passionne pour l'art, c'est d'abord pour l'art contemporain qui est pour nous devenu l'art moderne.
Oui, voilà, l'art contemporain. Alors c'est une évolution, parce qu'au début il est un petit provincial et il a l'impression que l'art abstrait ou les choses comme ça, c'est un peu, ouais. On la lui fait, on la lui raconte. Ouais. Et puis... il forme son goût, il forme sa sensibilité et ses connaissances. Il faut vous le représenter, s'achetant des livres d'art, abonné à des revues artistiques. Et voilà, il commence à collectionner justement au début des années 30, des gens comme Utrillo, par exemple. Il collectionnera Chabot, Marie-Laurencin, voilà. Et d'ailleurs, quand... devenu résistant, il se cherchera une couverture et il ouvrira une galerie d'art moderne à Nice, dans laquelle au début bah, il exposera sa propre collection pour avoir quelque chose à montrer, parce que vous vous doutez qu'il avait en réalité pas le temps de mener une carrière de marchand d'art en 1942 ou 1943.
Il y avait d'autres choses à faire. Alors, je vous propose que nous marquions une pause dans ce récit, parce que toutes ces questions ont une petite arrière-pensée à l'égard de nos contemporains. Voilà un jeune homme, un homme jeune, devenu fonctionnaire, qui fait son travail, qui en même temps se passionne pour plein de choses, mais que rien ne prédestine à la résistance, si ce n'est quand même l'ancrage républicain. Et s'il est un modèle à suivre, peut-être pour nous, n'est-il pas d'abord là ?
C'est aussi... un homme de conviction.
Ah.
C'est vraiment quelqu'un qui croit dans les valeurs de la République et qui pense qu'il faut agir pour la défendre. Le 6 février 1934, au soir des émeutes, il était devant la Chambre des députés, il a assisté aux violences, il en a acquis la conviction que la République est menacée par le fascisme, de l'intérieur et de l'extérieur. À cet égard, par exemple, il ne pense pas que la guerre qui commence avec l'Allemagne en 1939, ça soit contre l'ennemi héréditaire éternel, mais bien contre l'Allemagne nazie. Hein, c'est pas...
Ouais,
voilà.
Ouais.
C'est très très clair dans son esprit. Et donc, tout charmant, tout virevoltant, tout artiste, voilà, qu'il puisse paraître et qu'il ait été dans une certaine mesure, c'est un homme qui croit profondément en des valeurs et en la nécessité de les défendre, fût-ce au prix de sa vie, effectivement.
Alors, bon, on va avancer parce que dans une heure, nous sommes encore avec Jean Moulin et nous n'aurons pas terminé non seulement ce parcours, mais encore... Le Jean Moulin posthume, dont j'aimerais que nous disions quelques mots, qui fait aussi le prix de votre livre. L'entrée dans la résistance se fait d'abord par le refus physique de signer les documents sous l'occupant qui arrive...
Voilà, qui incriminerait l'armée française.
Voilà.
Nous sommes le 17 juin 40, voilà. Et donc il choisit, de peur de céder... Et sans doute aussi parce qu'il vient de vivre une séquence terrible,
tragique
depuis l'exode, l'invasion, les bombardements et son passage à tabac voilà, par des Allemands. Et donc, il choisit de se trancher la gorge plutôt que de céder. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suicides manqués qui... occupe une telle place dans notre histoire nationale, peut-être aussi parce que il préfigure sa mort presque 3 ans, jour pour jour plus tard.
Vous soulignez à quel point ce suicide a embarrassé les Allemands. Nos auditeurs, nos concitoyens ne le savent peut-être pas.
Oui, oui. Alors, embarrasser les Allemands qui, de fait, après, lui ont manifesté un respect teinté de méfiance, puisque Jean Moulin est resté préfet, ça se produit en juin 40 jusqu'au mois de novembre 1940. Et ce geste a embarrassé aussi Vichy, qui a choisi de l'ignorer de façon à pouvoir révoquer Jean Moulin, préfet de gauche, préfet du Front populaire, qu'il ne voulait plus voir dans son administration.
Et ça les embarrassait parce que ça contredisait l'image d'une armée d'occupation respectueuse, aimable, polie, courtoise.
Exactement. Et je vous rappelle que le terme collaboration, il apparaît dans la convention d'armistice de juin 1940, justement en disant que l'administration française en zone occupée doit collaborer avec les autorités d'occupation.
Jean Moulin rencontre à Londres son grand homme, on peut le dire.
Oui, alors dans tous les sens du terme, puisqu'il l'a dit lui-même de façon très amusante, il a trouvé le général de Gaulle grand, à tous les sens du terme. Effectivement, Jean Moulin est venu par ses propres moyens en Grande-Bretagne pour trouver des secours pour ceux qu'on n'appelle pas encore les résistants. Ne sachant pas s'il s'adresserait aux Britanniques ou à la France libre, eh bien, dès lors qu'il a eu rencontré le général de Gaulle, dès leur première rencontre, il a choisi la France libre parce qu'il a reconnu dans le général de Gaulle quelqu'un comme lui qui était d'abord un serviteur de l'État, quelqu'un qui défendait les intérêts de la France, mais pas au prix des libertés démocratiques.
Voilà, c'est extrêmement important quand on songe que, à la même époque, aux États-Unis, un certain nombre de Français, également hostiles à l'Allemagne nazie, il faut le dire, disent aux Américains à quel point le général de Gaulle menace la démocratie, à quel point il faut se méfier de lui.
Oui, oui, et Jean Moulin a eu une discussion probablement à cœur ouvert. Il a rappelé au général de Gaulle qu'il était un homme de gauche, un homme du Front populaire, que sans doute leurs orientations politiques étaient très différentes, mais qu'il y avait un moyen de s'entendre, et c'était vrai.
Et pour secrétaire, on va lui donner un type qui a été élevé dans une famille royaliste et antisémite.
Oui, un homme d'Action française et à qui, après l'avoir entendu pour la première fois, Jean Moulin a dit « En vous écoutant, je me rends compte de la chance que j'ai eue d'avoir une famille républicaine ».
Ce sont de très beaux personnages que Daniel Cordier et Jean Moulin. Puisque vous avez côtoyé Daniel Cordier, pouvez-vous, en quelques mots, nous dire comment cet homme, aujourd'hui très âgé, mais vous a parlé de son grand homme à lui ?
En fait, Daniel Cordier, c'est aussi un homme de combat. C'est-à-dire, il s'est engagé dans la France libre à 20 ans, en 1940, en ayant lui aussi quitté la France par les moyens du bord. Il voulait se battre. Et je pense que c'est absolument toute sa vie. Toute sa vie, lui aussi s'est battu pour ce à quoi il croit. Et en fait, il s'est converti à l'âge de 57 ans au métier d'historien pour défendre la mémoire de Jean Moulin qu'il estimait injustement attaqué.
Alors ça, vraiment, nous sommes très heureux de pouvoir vous entendre sur ce point. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons et sur quel point, justement, Daniel Cordier estimait que Jean Moulin était, on pourrait dire, presque diffamé?
Oui, alors, dans les années 1970, ont émergé de façon assez construite, bon, en particulier sous la plume d'Henri Freinet, qui voilà, avait été le dirigeant d'un grand mouvement de résistance appelé Combat, des accusations qui avaient pris corps à la suite des terrible déchirement de l'époque de la résistance, donc accusant Jean Moulin d'avoir été crypto-communiste et d'avoir de ce fait favorisé les communistes dans la résistance. Voilà. Pour moi aussi, cette controverse, elle témoigne de son époque. Parce que c'est quelque chose qui est apparu dans les années 50, au début de la guerre froide, en fait, et qui s'est développé jusqu'au moment de la disparition de l'Union soviétique. Et lui a succédé, d'ailleurs, dans les années 90, une nouvelle version de Jean Moulin, non plus espion soviétique, mais espion américain, parce qu'on était dans un autre contexte. Ouais. Et si vous voulez, au fond, même à l'échelle d'une vie humaine, on se rend compte que le prisme de l'histoire ne cesse de se changer, d'être en mouvement. Et ça se focalise très naturellement sur nos héros nationaux, parce que ce sont des gens qui cessent de s'appartenir pour nous appartenir à nous. Et c'est vrai que l'histoire, elle se fait au présent aussi.
Oui, comme disait Bloch, Marc Bloch disait, le présent explique le passé autant que le passé explique le présent.
Oui, oui, c'est exactement vrai. Et tout ceci m'a embarrassée pendant des années, non pas le fond des polémiques, mais le fait de devoir traîner toujours ces polémiques, oui, y répondre, oui, etc. Jusqu'au moment où, alors j'ai eu une sorte d'illumination et j'ai fait un rapprochement avec Jeanne d'Arc, dont vos auditeurs doivent savoir qu'on dit absolument tout d'elle, princesse, oui, fille, oui, à soldat, un homme, pas mort, oui, à Rouen, d'ailleurs pas née à Don Rémy. D'ailleurs,
elle vend des t-shirts au Nicaragua aujourd'hui, voilà. Jeanne d'Arc, non ?
Donc, bien, je pense que, voilà, oui, nos héros, et en un sens, tant mieux, et c'est normal, nous nous les approprions tellement que nous les sortons de leur vie et de leur époque.
De très jolis passages, je le dis pour nos auditeurs. Là, vous consacrez un long développement à la fameuse photographie de Jean Moulin. C'est très, très joli. Un mot terrible aussi, enfin des pages, deux pages, trois pages, mais nous sommes dans le cabinet du médecin qu'à lui, grâce à vous, parce que vous nous décrivez cela avec une économie de moyens, aucun pathos, mais on y est quand même, hein, cette arrestation à Caluire, Jean Moulin qui fait partie des gens dans la salle d'attente, la réunion qui se déroule au premier, et le temps qui s'écoule au cours duquel Jean Moulin espère à un moment donné ne pas être identifié parce qu'il a sur lui une ordonnance. Enfin...
Oui, oui, parce qu'il était un homme très prudent. Il avait été échaudé par ses premiers pas dans la clandestinité. Et depuis qu'il était le représentant de la France combattante et du général de Gaulle, puis ministre en mission, hein, en France métropolitaine, il s'efforçait d'être extrêmement prudent avec les moyens du bord, malheureusement. Et en principe, par exemple, il n'était jamais en retard. Il avait tout le temps de vrais faux papiers, une raison plausible de se trouver là où il se trouvait. Il ne gardait aucun document sur lui. Voilà. Mais il arrive un moment où, quand on est entre les mains de la Gestapo, ça ne suffit plus.
Eh oui, eh oui. Bon, je vous propose de parler maintenant du Moulin posthume. Vous en avez déjà parlé en tant que héros national qui ne s'appartient plus, ou en tout cas qui appartient à la communauté nationale.
Oui, voilà, qui nous appartient, voilà, et qui est changé par notre regard.
Et en vous écoutant, Bénédicte Vergès-Chaignon, j'ai vraiment le sentiment que les Français continuent à se passionner pour l'histoire de France, à rebours de ce que quelques crétins prétendent.
Oui, c'est notre ADN à nous, hein, l'histoire.
C'est vrai.
Effectivement, je pense que c'est comme ça qu'on fait un citoyen et quelqu'un qui s'intéresse à soi-même aussi. Enfin bon, en même temps, je vais vous dire, moi je suis mal placée pour en parler parce que je dirais que j'ai la bosse de l'histoire comme il y en a qui ont la bosse des maths. Voilà. Ah. Pour moi, ça fait vraiment partie de ma vie depuis mon enfance. Mais voyez, quand je me rends, je ne sais pas, au fort de Montluc où Jean Moulin a été incarcéré, à la maison du docteur Dugoujon à Caluire où il a été arrêté, au Panthéon, ben, je ne suis pas toute seule. Je ne suis pas toute seule à être là à visiter. Oui, oui.
Devant la maison du docteur Dugoujon,
il y a encore des gens. Mais elle se visite maintenant.
Oui.
Éventuellement. Oui, oui, il y a des gens qui sont avides de voir, de savoir, de comprendre. Et quand je rencontre des lecteurs d'ailleurs de mes livres, je suis frappée par ça, par la curiosité des gens, vraiment.
La symbolique de l'entrée de Jean Moulin au Panthéon. Vous racontez de quelle façon tout cela s'est articulé. Comment De Gaulle, finalement, a accepté le geste, mais avec une réserve qui n'est pas du tout de principe. C'est une très jolie réserve, si j'ose dire, de la part du général. Il dit, mais est-ce qu'on a vraiment les restes de Moulin? On voit bien là l'homme précis et attentif.
Oui, oui, oui. Hein, et en même temps, quelle importance ça.
Oui, mais dans son esprit, il faut que ce soit vraiment Jean Moulin. Mais on ne va pas mettre un cercueil vide.
Voilà. Hein, c'est son nom qui est au Panthéon. Vous savez, c'est comme le soldat inconnu. Voilà.
Ah oui, mais enfin, lui, il a vraiment un corps
oui,
dedans.
Oui, hein, tout à fait. Mais là, donc, ce sont les cendres d'une victime de l'Allemagne nazie que, par déduction, on estime pouvoir être les cendres de Jean Moulin. Mais dans la mesure où on ne sait ni où, ni quand, voilà, ni comment, ni en un sens pourquoi Jean Moulin est mort, que les seules traces sont des documents administratifs SS, je pense que vous voyez la contradiction des termes entre eux, on n'en est pas sûr.
Et mais le cercueil n'est pas vide.
Le
ça,
cercueil
je crois,
n'est
important
pas vide.
Pour
voilà,
nos auditeurs.
Le cercueil n'est pas vide. Des cendres avaient été conservées au crématorium du Père Lachaise et ont été translatées de ce lieu en passant par le mémorial des martyrs de la déportation derrière Notre-Dame jusqu'au Panthéon les 18 et 19 décembre 1964.
N'est-ce pas justement là l'essentiel quand vous dites... Ce qui compte, c'est le symbole, hein, c'est l'homme qui représente, comme le dit joliment le ministre André Malraux, entre ici avec ton cortège. Hein,
Oui. Et d'ailleurs, lorsque les cendres de Jean Moulin ont été déposées dans le caveau numéro 6 au Panthéon, on pensait à cette époque-là qu'il y resterait seul. Et c'est le contraire qui s'est produit, c'est que sa présence a initié une sorte de zone, de couloir, enfin je ne sais pas quel est le terme architectural exact, qui est consacré à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, de ses résistants, de ses héros, de ses justes et de ses victimes. Au fond, là, le symbole est vraiment multiplié par 2 ou par 10.
Oui, il a entraîné derrière
voilà,
lui.
Voilà, il l'a entraîné derrière lui.
Y compris celui qui, quand même, lui a donné bien du fil à retordre en croyant toujours qu'il avait raison.
Hein, oui.
Mais enfin.
Mais oui.
Voilà, bon, enfin, ne rouvrons pas la polémique ou les plaies.
Non,
chacun déduira ce qu'il voudra.
Non, parce qu'on ne va pas faire de palmarès ou de hit-parade entre les résistants, surtout quand ils ont
payé de leur vie,
fait le sacrifice de leur vie et un sacrifice consenti.
Et ô combien héroïque, car Brossolette s'est jeté dans le vide pour ne pas parler.
Oui, hein, oui.
Ça, quand même, hommage et honneur à cet homme-là aussi. Hein. Alors, vraiment, j'aimerais que nous consacrions les quelques minutes qui nous restent, Bénédicte Vergès-Chaignon, à notre société. Comment faire pour convaincre, non seulement de la geste formidable que ces hommes ont mené, mais encore de s'inspirer de tout cela pour dire aujourd'hui, voilà, rester humaniste, ce n'est pas être terne, béni, oui, que nos auditeurs catholiques me pardonnent cette expression, elle est dite fraternellement. Ce n'est pas être terne et bête, c'est au contraire, être du côté du bien, bon sang de temps en temps.
Je pense que c'est vraiment rassurant et agréable de savoir que on peut être un homme bien sans l'être 24 heures sur 24 et 365 jours par an.
Voilà.
Voilà, que on a pas besoin d'être un petit saint depuis l'enfance et toute sa vie. Il suffit d'être une personne de conviction et une personne de conviction juste, si possible. En tout cas, de faire preuve d'intégrité et de courage. Et l'exemple de Jean Moulin, il est très frappant parce que ce n'est pas quelqu'un qui se regarde vivre ou agir. C'est quelqu'un qui agit de manière à la fois réfléchie mais instinctive et qui jamais n'a voulu se donner en exemple ou se poser en modèle.
Donc en cela, il peut être un exemple pour nous.
Tout à fait, c'est ça qui lui donne une force, c'est paradoxal. Mourir jeune, torturé, trahi, c'est plus que mourir.
Ah oui, bien sûr. Et à fréquenter ce personnage, mais aussi à fréquenter des gens vraiment, je le disais en préambule, beaucoup moins recommandables. Je pense à Lucien Rebattet, par exemple. Comment regardez-vous notre époque ? Est-ce que, j'allais dire, est-ce que vous gardez l'espérance ? Ça, je le pense, et nos auditeurs l'entendent à votre voix chaleureuse et lumineuse. Mais malgré tout, comment regardez-vous notre époque ?
Écoutez, j'ai acquis... je ne sais pas, je suis assez indulgente parce que j'en ai vu tellement et tellement justement dans les archives. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir mes opinions et de faire la départition entre le bien et le mal, je dirais presque à mon insu. C'est qu'il y a des moments, quand je lis des archives, je me dis là c'est trop. Là, c'est pas acceptable. Ou bien au contraire, je me dis, ça c'est fort, ça c'est touchant. C'est quelque chose qui, au fond, n'a pas vraiment besoin d'être raisonné. Peut-être on est tous pareils. Et en tout cas, c'est pour ça que dans mes livres, j'essaie, bon, je dis clairement ce que je pense, mais j'essaie de ne pas imposer mon opinion. Je montre à voir et je crois que les gens savent aussi bien que moi voir ce qu'il y a à voir.
Vous n'adoptez jamais la position de surplomb de qui juge facilement derrière son bureau, assis à la table.
Voilà, parce que, bon, c'est vrai qu'on le dit de façon banale qu'un historien n'est pas un juge, mais c'est vrai, quoi qu'on manie souvent des archives judiciaires. Voilà.
Puis vous avez suivi le destin de Paul Touvier, par exemple.
Exactement. Et voyez, alors c'est un scoop pour vous et pour vos auditeurs. Je suis en train de travailler en ce moment sur Fernand Bonnier de la Chapelle, le jeune homme.
Merveilleux personnage.
Qui a assassiné l'amiral Darnan, ancien chef du gouvernement de Vichy.
Darnan, vous avez commis un petit lapsus, si vous me permettez.
Darnan, à Alger, en décembre 1942. Ce meurtre a été commis le 24 décembre. Fernand Bonnier de la Chapelle entre à ce moment-là dans l'histoire et il en sort le 26 décembre en étant fusillé.
Alors, c'est un destin. Merci de nous confier ce scoop, comme vous dites. Oui, un destin magnifique aussi. Tragique, mais magnifique.
Un destin tragique et assez étrange.
Donc, vous regardez les gens de notre époque, dites-vous, avec une certaine indulgence. Évidemment, ce terme sur fréquence protestante est mal connoté, mais je plaisante. Mais donc, parce que vous sentez bien qu'aujourd'hui, est-ce que cela signifie que aujourd'hui vous sentez autour de vous des gens qui seraient prêts, en cas de tragédie, à passer du mauvais côté ?
Oui, mais d'autres passeraient du bon côté. Enfin, non, mais je veux dire, j'ai quand même confiance en la nature humaine, malgré ce à quoi je me consacre, ou à cause de ce à quoi je me consacre depuis 30 ans. Ce qui est certain, c'est que je me rends compte que nous ne sommes jamais à l'abri de rien. C'est-à-dire, vous savez, il y a quelques années, quand la terrible crise des migrants a commencé, on m'a questionné là-dessus et j'ai dit, mais après tout, nos parents, nos grands-parents ont été des migrants et des réfugiés, ne serait-ce qu'à cause de l'exode de 1940, où il y avait quand même 10 millions de gens sur les routes, n'ayant pas forcément ni à manger ni à boire, et en tout cas n'ayant pas un toit au-dessus de leur tête, et qui, quelques semaines auparavant, ne s'y attendaient absolument pas. Donc, la roue de l'histoire, elle tourne très très vite.
Voilà. Je vous propose que nous nous en arrêtions là, car c'est une très jolie leçon pour nous tous. La roue de l'histoire tourne très vite et donc ne prenons pas la pause, mais sachons nous inspirer, c'est ça ?
Oui, absolument.
Bon, merci beaucoup, Bénédicte Vergès-Chaignan. Je rappelle le titre de votre livre, Jean Moulin. Pas de sous-titre ?
Si, La Franchie.
Ah, l'affranchie. Ça, c'est assez chouette parce que il y a plusieurs acceptions.
Oui, oui.
Hein, il y a le gars qui est à la lisière du droit chemin. Voilà.
Et celui qui est libre, tout simplement.
Mais voilà, exactement. Jean Moulin l'affranchi, publié dans la collection des grandes biographies chez Flammarion. Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.
Chers auditeurs, comme je le fais chaque semaine, je vous propose de découvrir le journal Réforme. De quelle façon? Mais la chose est extrêmement simple. Il vous suffit de composer le numéro de téléphone 01 43 20 32 67. Je répète, 01 43 20 32 67. Mais parce que vous adorez surfer sur le web, je veux dire taper sur le clavier de votre ordinateur, je vous propose une adresse: www.reforme.net. www.reforme.net. Vous découvrirez le site internet dont s'occupent admirablement Laure Salamon et Louis Fraisse. Vous pourrez recevoir 3 numéros gratuits du journal, à partir de quoi, évidemment, vous vous abonnerez. Et là, vous pourrez télécharger le journal sur votre ordinateur, votre téléphone, votre montre. Parler même avec quelqu'un qui n'est même plus enroué. Des folies, enfin bref. Je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis à la semaine prochaine.